Vous écoutez, on lit pour vous.
Un journaliste infiltre l'Église de Scientologie durant 3 mois. Un texte d'Étienne Paré, paru le 26 avril 2025 dans la presse. Un stagiaire de l'émission Enquête a réussi à se faire passer pour un homme en détresse qui cherchait à se joindre à l'Église de Scientologie. Son infiltration aura duré en tout 3 mois. La plus longue jamais réalisée à Radio-Canada. Il sera arrivé à gagner la confiance de plusieurs adhérents, lui permettant d'avoir un accès privilégié à ce controversé mouvement religieux. Une expérience humaine intense, angoissante parfois, qu'il raconte dans la 7e saison de l'émission Balado, Histoire d'enquête. Dans cette série balado de 6 épisodes, Pierre, prénom fictif, un homme dans la trentaine qui faisait un retour aux études en journalisme, a accepté de se livrer sur les émotions qui l'ont habité durant ce long processus. Par crainte de représailles, il faut néanmoins continuer d'utiliser le prénom fictif qu'il avait adopté au cours de l'enquête. J'y pense encore. Quand je vois quelqu'un qui ressemble à une personne que je croisais à l'église, je deviens toujours un peu anxieux. Quand je vais à Québec, c'est certain que j'évite d'aller dans Saint-Roch, près de l'église. C'est un sentiment qui va peut-être rester, confie en entrevue, à la presse, Pierre, plus 1 an et demi plus tard. C'est en novembre 2023, 1 mois environ après la fin de l'infiltration, qu'Enquête a diffusé son reportage sur l'Église de Scientologie. On y apprenait, entre autres, que des médecins autorisaient leurs patients à suivre le programme de purification offert par la Scientologie, bien que celui-ci n'ait aucun fondement scientifique. Le journaliste qui a piloté le projet, Gaëtan Pouliot, était déjà connu des scientologues. C'est lui qui avait révélé en 2018 que des membres de l'Église y travaillaient pour l'équivalent de moins de 2 $ de l'heure. L'affaire avait fait grand bruit. Même sous une fausse identité, les risques étaient donc trop grands de se faire reconnaître. Il ne pouvait pas se permettre d'infiltrer lui-même le mouvement. C'est pourquoi l'équipe d'enquête a décidé de se tourner vers un de ses stagiaires. J'ai eu peur de me faire démasquer tout le long. J'avais toujours une caméra cachée sur moi, que ce soit sur mes lunettes, sur ma montre, dans un thermos. Dès que quelqu'un fixait l'objet, je me disais « ça y est, on s'est fait prendre ». À la longue, tu deviens paranoïaque, se souvient Pierre, qui n'a pas recroisé de scientologue depuis la fin de son infiltration. La bipolarité n'existe pas. Le personnage de Pierre, un gardien de sécurité bipolaire à bout de ressources, est directement inspiré de l'histoire de Calcium, une source anonyme qui témoigne dans le reportage d'enquête. Cette ancienne scientologue, qui compose avec des enjeux de santé mentale, s'était fait conseiller de cesser sa médication en adhérant au mouvement connu pour son aversion pour la psychiatrie. Comme Calcium, Pierre s'est rapidement fait suggérer d'arrêter ses traitements. On lui a plutôt donné rendez-vous dans un garage lambda en banlieue de Québec. Le propriétaire de l'endroit, un scientologue, lui a prescrit des vitamines qui ne sont pas homologuées par Santé Canada. Il est même allé jusqu'à dire à Pierre que la bipolarité n'existait pas. Cette affirmation a profondément choqué le stagiaire de l'émission Enquête. Dans la balado, il raconte qu'il fulminait de l'intérieur à ce moment précis. Or, il lui a fallu rester de marbre pour ne pas éveiller les soupçons. Je ne doute pas, par contre, que quelqu'un qui vit des difficultés peut être tenté d'y croire, précise-t-il. Ce sont des gens très entreprenants. Ils sont vraiment bons. Ils sont bienveillants. Ils sont sympathiques. Et ce qu'ils offrent, c'est un support moral, une communauté. Pour autant, y croient-ils vraiment eux-mêmes? C'est la question qu'il s'est posée tout au long de son infiltration. Je ne juge pas du tout leur croyance, et c'est bien important de rappeler, ce n'est pas pour ça que l'on a fait ce reportage. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Notre but, ça n'a jamais été de rire d'eux, mais reste que, quand on me parlait des bienfaits du programme de purification ou des vitamines, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander dans ma tête « Est-ce que tu y crois vraiment ou tu veux juste me vendre quelque chose ?» souligne Pierre, qui n'a toujours pas trouvé de réponse à cette question. Aucun regret, mais... Jamais il n'a douté du bien fondé de cette enquête. Il est d'ailleurs très fier d'y avoir contribué. Ce qui ne l'empêche pas, cela dit, d'avoir une pensée pour certaines personnes qu'il a côtoyées durant cette période. Même en étant très professionnel, difficile d'être indifférent au sort de gens avec qui on a échangé pendant plusieurs semaines. Quand est arrivée la fin, j'ai tout de suite pensé à tous ceux que j'avais croisés dans l'église. Je me suis dit qu'ils allaient finir par le savoir que Pierre n'existait pas pour vrai, que c'était une enquête journalistique. Je me suis demandé quelles ont été les conséquences pour eux d'avoir fait confiance à Pierre, s'interroge-t-il, avec une certaine empathie. C'était « Un journaliste infiltre l'Église de Scientologie durant 3 mois », un texte d'Étienne Paré paru le 26 avril 2025 dans La Presse.
Connaissez-vous bien les effets positifs du vélo? Un texte commandité paru le 3 mai 2025 dans La Presse. Porté par la volonté de promouvoir la pratique cycliste, Vélo Québec lance l'Observatoire du vélo. Ce nouvel outil de référence regroupe des données fiables et accessibles en vue de guider les actions et de mieux faire connaître les multiples bienfaits de l'utilisation du vélo. Découvrez tout le potentiel de ce mode de transport, bon à la fois pour la santé, pour l'économie et pour l'environnement. Alimenter la réflexion collective. Lancé dans une perspective de mobilisation et d'éducation, l'Observatoire du vélo s'appuie sur plus de 30 ans de données récoltées par Vélo Québec, qui y voit un levier stratégique pour encourager un mode de transport actif, durable et inclusif. Les chiffres confirment d'ailleurs cet élan, puisque la pratique du vélo est en pleine croissance dans la province. En 2020, 54 % des adultes et 87 % des enfants pédalaient régulièrement, ce qui représente une hausse de 25 % depuis 1995. Chaque jour, de plus en plus de gens font du vélo un outil de mobilité. En 2020, un quart des déplacements à vélo visaient le transport, pour un total de 2,1 millions de cyclistes, précise Stéphane Blais, directeur de l'expertise et de la recherche à Vélo Québec. Cette popularité s'est accompagnée d'améliorations notables en matière de sécurité. En 40 ans, le nombre de cyclistes gravement blessés ou morts a été divisé par 4, grâce, entre autres, aux améliorations des aménagements cyclables. Pédaler pour sa santé. Adopter le vélo comme moyen de transport quotidien représente bien plus qu'un choix écologique. C'est un véritable investissement pour sa santé. En effet, selon les données colligées par Vélo Québec, sur une distance moyenne de 7 km, utiliser le vélo plutôt que la voiture pour se rendre au travail permettrait d'augmenter son espérance de vie d'un an en moyenne. Les bienfaits du vélo sur le plan médical se révèlent tout aussi impressionnants. Sa pratique régulière réduirait de 30 à 40% le risque de diabète de type 2 et de 20 à 35% celui de maladies cardiovasculaires et jusqu'à 30% de risque de développer certains cancers. Bon à savoir, Depuis 2020, la pratique du vélo au Québec permet de faire économiser 2 milliards de dollars par an en frais de santé à toute la société. Un allié pour l'environnement. En matière de lutte contre les changements climatiques, le vélo se distingue comme l'un des moyens de transport les plus sobres en carbone. Lorsqu'on considère l'ensemble de son cycle de vie, de la fabrication à l'entretien, un vélo émet jusqu'à 66 fois moins de gaz à effet de serre, GES, par trajet qu'une voiture à essence. Au quotidien, les cyclistes produisent en moyenne 6 fois moins d'émissions de GES que les non-cyclistes. Ce gain environnemental est encore plus important pour les courts déplacements urbains, source d'importantes émissions en voiture en raison de la congestion, des arrêts fréquents et de la conduite à faible vitesse. Stéphane Blais conclut que ce soit pour améliorer sa santé, réduire son empreinte environnementale ou alléger ses dépenses, le vélo est un choix gagnant à tous les points de vue. Et au-delà des bénéfices individuels, c'est toute la collectivité qui en profite. Moins de congestion, moins de pollution, moins de pression sur les systèmes de santé et de transport. Une activité bonne pour le portefeuille. Au-delà de sa dimension récréative, le vélo représente aussi un moteur économique non négligeable. L'an dernier, les dépenses associées au vélo, qu'elles aient à voir avec le tourisme, le loisir ou le transport, ont atteint 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 15 % depuis 2015. Sur le plan des finances personnelles, adopter le vélo comme mode de transport quotidien permet aussi de faire un choix économique judicieux. Toujours selon les données de l'Observatoire du vélo, le coût moyen d'un déplacement à vélo en 2024 s'élevait à seulement 4 sous du kilomètre, contre 98 sous pour une voiture. Stéphane Blais, ce faible coût d'utilisation en fait le moyen de transport le plus abordable, après la marche, souligne M. Blais. L'aménagement d'infrastructures cyclables génère lui aussi des retombées économiques concrètes. Hausse des ventes dans les commerces locaux, réduction du taux de locaux vacants et création d'emplois plus élevés que pour des aménagements routiers. Intégrer le vélo à ses déplacements, c'est faire un choix simple, économique et bénéfique pour sa santé, sa communauté et la planète. Il suffit de l'essayer, parfois sur un petit trajet, pour constater à quel point le vélo peut transformer notre quotidien. C'était « Connaissez-vous bien les effets positifs du vélo ?» un texte commandité paru le 3 mai 2025 dans la presse.
Alors, pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi déjà? Un texte d'Anna Holmes du New York Times, paru le 12 mai 2025 dans La Presse. Question. À la fin de 2024, j'ai quitté mon emploi sans avoir rien d'autre en vue. Mon patron était abject. La situation était assez grave et amplement documentée pour que je parte avec une généreuse indemnité. Mais j'ai dû signer un accord de confidentialité et m'engager à ne pas dénigrer mon ancien employeur. J'ai pris une pause de quelques mois, puis trouvé un nouvel emploi, même domaine, même ville. Et ce n'est pas une grande ville. Je dois maintenant trouver comment expliquer mon départ et la pause dans ma carrière. Ce n'est pas évident. Je travaille dans ce domaine depuis 15 ans. J'ai donc un bon réseau et de nombreux collègues me contacte pour me féliciter de mon nouveau poste. Je n'ai pas le droit d'être tout à fait honnête au sujet de mon ancien employeur, mais je ne veux pas non plus passer pour un type qui papillonne d'un emploi à l'autre. Ça nuirait à ma carrière. Par ailleurs, je crains que mon ancien patron, lui, ne se gêne pas, comme il l'a fait lorsque je travaillais pour lui. Mon nouveau poste me plaît beaucoup, mais techniquement, le titre est un cran plus bas. Ça peut, hélas, donner une mauvaise image, même si, en réalité, les responsabilités et les chances de promotion sont plus élevées. Comment puis-je faire savoir subtilement que j'ai quitté une situation difficile sans le dire explicitement? Existe-t-il un langage professionnel codé pour cela? Je suis très directe et ce genre de langage feutré et diplomatique n'est pas mon fort. PS. L'accord de confidentialité comprend une clause selon laquelle rien ne m'empêche de parler honnêtement de mon ancien employeur si on me pose des questions spécifiques sur mes conditions d'emploi. Anonyme. Réponse. Voilà une question compliquée, mais la réponse est plutôt simple. Dites que votre ancien emploi ne vous convenait pas. Les pauses entre deux emplois ne sont pas rares, et c'est souvent pour des raisons personnelles. Personne n'en fera un plat si vous donnez cette explication. Si on vous pose la question, ça vous donne l'occasion d'exprimer votre enthousiasme pour votre nouvel emploi. Ça permet de diriger la conversation vers le présent et non le passé, et d'expliquer pourquoi vous avez maintenant un poste une coche plus bas, comme on dit. Parlez en bien de la nouvelle boîte. Dites à quel point vous êtes content et reconnaissant d'avoir trouvé ce nouveau poste. Si on insiste, vous n'avez qu'à répéter que votre ancien emploi ne vous convenait pas et ajouter que, dans le cadre de votre départ, vous avez convenu de ne pas parler de votre expérience dans cette entreprise. Mais en fin de compte, peut-être que certains se demanderont pourquoi vous avez quitté votre ancien emploi. Vous devrez faire avec. Ça fait partie de la vie professionnelle. Un collègue insupportable. Question. Chaque année, on me confie un projet important, en tandem avec un collègue. On travaille ensemble durant tout le mandat. D'habitude, je me lie facilement aux collègues avec qui je dois travailler. Je m'adapte bien à toutes sortes de personnalités. J'ai ce type de mandat en tandem depuis des années et généralement, ça me plaît. Mais mon nouveau partenaire me laisse perplexe. Il a une façon de parler hyper formelle, presque d'une autre époque, alors qu'il a 20 ans de moins que moi. Ce n'est pas un problème en soi. Je le mentionne pour contextualiser les deux aspects de sa personnalité qui m'irritent. Il est à la fois obséquieux, ce que je n'ai jamais pu tolérer chez les gens, et condescendant dans sa façon de s'exprimer. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou au fait que je sois une femme ou aux deux. J'essaie de passer par-dessus ses manières affectées, mais je trouve ça très difficile. En plus, il a été spécialement embauché pour m'assister dans cette tâche. Il fait du très bon boulot, impeccable. Mais juste à y penser, sa compagnie me donne de l'urticaire. J'espère vraiment que vous pourrez me donner quelques conseils pour gérer au mieux cette situation. Anonyme. Réponse. Vous ne saurez jamais si l'attitude de votre collègue est liée à votre âge, à votre sexe ou à autre chose. Et vous ne pouvez pas lui poser la question. Oubliez ça. Laissez tomber cette partie du problème. Et vous devez au moins essayer d'accepter l'autre partie, sa façon d'être. Cela étant dit, je vous comprends. La flagornerie ça donne la nausée. Le ton servile, mielleux, ça peut, comme vous le dites, être condescendant. C'est pénible de côtoyer ce genre de personne. C'est à s'en arracher les cheveux. Mais vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas, en toute bonne foi, demander qu'il soit retiré du projet. Vous dites que son travail est irréprochable. De toute façon, le style de communication d'une personne, à moins d'être blessant, n'est pas un motif pour solliciter les ressources humaines. Votre lettre ne précise pas si ce collègue est votre égal ou un subordonné, mais ça n'a pas d'importance. Je vous dirai la même chose. Cela laisse une question en suspens. Lui en parler directement ou pas? Je pense que vous ne devriez pas. Cela vous soulagerait temporairement, peut-être. Mais lui parler de sa façon de parler ne ferait que vous compliquer la tâche à long terme. Et votre mandat commun a l'air de commencer. Ça me peine de vous le dire, mais vous devrez prendre votre mal en patience. Tolérer la situation autant que possible. Trouver des stratégies pour limiter vos interactions directes. Atténuer votre irritation extrême. Pourriez-vous travailler avec lui par courriel ou sur Slack plutôt qu'en personne? Vous pourriez peut-être dresser une liste de ses qualités à lire et à relire quand vous le trouvez vraiment pénible. Le travail n'est pas toujours amusant et facile. Nos collègues non plus. Et être professionnel implique de mettre de côté, autant que possible, nos sentiments et irritations à l'égard des collègues. C'est ce qu'il faut faire ici. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas facile. Mais c'est comme ça. J'espère ne pas avoir l'air condescendant. Bien sûr. C'était? Alors, pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi déjà? Un texte d'Anna Holmes du New York Times, paru le 12 mai 2025 dans La Presse.
La tarification sociale jouit d'une popularité phénoménale à Québec. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. 2 ans après sa mise en œuvre dans le transport collectif de Québec, la tarification sociale profite à plus de 15 000 personnes, un succès qui dépasse les attentes de la mairie et qui l'incite à évaluer l'inclusion d'Avélo, le populaire service de bicyclette en libre-service de la capitale, dans le programme Équi-Mobilité. Inauguré le 1er mai 2023, ce dernier permet aux usagers du service de transport adapté de la capitale, STAC, et à toute personne dont le revenu se situe sous un seuil de faible revenu de se déplacer à moindre coût à bord du réseau de transport de la capitale, RTC. La première année, la réduction consentie à l'achat d'un abonnement mensuel se chiffrait à 33 % du prix courant, un rabais que la Ville a fait passer en 2024 à près de 50 % jusqu'au printemps 2026. Les billets à 2 $ et la passe à 50 pièces ont fait bondir la demande. Depuis juillet 2024, le nombre de bénéficiaires d'Équi-Mobilité a bondi de 124 %. Désormais, la tarification sociale permet d'alléger les finances de 8 427 usagers du STAC et de près de 7 000 ménages à faible revenu. C'est phénoménal, se réjouit la conseillère Maude Mercier-Larouche, instigatrice de la mesure. Ça fait surtout une réelle différence dans la vie des gens, parce que ça représente une économie annuelle potentielle de 600 $ par personne. Ils se permettent des petits plaisirs avec cet argent-là, raconte l'élu du district de Saint-Louis-Sillery. Certains peuvent maintenant mettre leurs biscuits préférés dans leur panier d'épicerie, d'autres s'accordent un vêtement neuf pour leur party de bureau ou des sorties au cinéma avec des amis. La tarification sociale permet non seulement aux gens de se déplacer du point A au point B, mais aussi de briser l'isolement social. L'engouement pour Equimobilité permet à l'administration municipale de bomber le torse par rapport à d'autres villes dans le monde qui ont implanté une telle tarification sociale, poursuit la conseillère. Sur le territoire de l'agglomération de Québec, que dessert le RTC, il y a environ 33 000 personnes sous le seuil de faible revenu, explique-t-elle. Normalement, selon les statistiques compilées au Canada et ailleurs dans le monde, environ 12 % des personnes admissibles font la démarche pour pouvoir bénéficier d'une mesure de tarification sociale. À Québec, on a largement dépassé ce chiffre-là. On est à 20 % Oui à une bonification, non à la gratuité. La popularité du programme incite la ville à étudier la possibilité d'étendre la tarification sociale à d'autres services, comme à vélo, son système de bicyclette électrique partagée. On a déjà eu cette réflexion-là, précise Maude Mercier-Larouche. Ce n'est pas pour cette année, mais est-ce que ça veut dire que nous fermons la porte pour l'avenir? La réponse est non. D'autant qu'Equimobilité répond à un réel besoin en matière de transport. Les statistiques récoltées par la ville montrent que les bénéficiaires de la tarification sociale voyagent plus souvent avec le RTC que les abonnés ordinaires. « C'est une donnée qui nous a vraiment étonnés », dit le conseiller Claude Lavoie, responsable du dossier de l'accessibilité universelle au sein de l'exécutif. « Il y avait un besoin de se déplacer et cette mesure-là permet justement d'y répondre ». La popularité d'Equimobilité n'incite toutefois pas la ville à étudier la gratuité des transports pour les clientèles vulnérables. Du moins, elle n'entend pas franchir ce pas sans l'aide des autres ordres de gouvernement. Ce sont des budgets beaucoup plus importants, indique Maude Mercier-Larouche. On ne pourrait pas faire ça seul. La ville, qui a prévu jusqu'à maintenant un budget de 4,6 millions de dollars pour éponger les coûts de la tarification sociale, songe déjà à bonifier son programme dès l'an prochain. « Ce serait une terrible erreur que de revenir en arrière », conclut Maude Mercier-Larouche. « Au contraire, il faut aller de l'avant et penser aux façons de faire vivre cette mesure-là encore plus, par tous les moyens. » C'était « La tarification sociale jouit d'une popularité phénoménale à Québec », un texte de Sébastien Tanguy paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.